BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot. Erwan Maurice.
Bonjour à tous, c'est l'heure de votre émission RH. On est ensemble pendant une demi-heure. Au programme, recruter dans la marine. C'est la lourde mission du capitaine de corvette François Séché. C'est notre recruteur de la semaine dans un instant. Dans 10 minutes, c'est la séquence service de notre émission avec notre avocat qui répond à vos questions et avec vous, Jeanne. Bonjour.
Bonjour Erwan. Aujourd'hui, c'est l'avocat Thierry Meya, avocat associé au cabinet Hogan Lovells, qui nous dit si on peut refuser de travailler dans une zone de conflit. Écrivez-nous vous aussi pour interpeller nos avocats en droit du travail sur BFM Business, sur Happy Boulot. Ah oui.
bfmbusiness.fr. Vous connaissez toujours pas l'adresse,
on la donne toutes les après tout ce temps.
Comment manager les bêtes et méchants, des personnes toxiques ou délétères, question peu abordée que sont pourtant nombreux à se poser les managers RH et autres directions d'entreprise. Si vous êtes confronté à ce problème, restez avec nous, on va vous aider avec nos invités dans le meeting. Et puis en fin d'émission, c'est la carte blanche de Yannick Mercieris qui nous fera le portrait robot de l'entreprise idéale des moins de 25 ans. Voilà le programme. Merci d'être avec nous, c'est parti, on vous sort de votre boîte.
Happy Boulot, le DRH de la semaine.
Bonjour commandant.
Bonjour Erwan.
François Séché, capitaine de corvette, chef du service Île-de-France Outre-mer pour le service de recrutement de la Marine nationale. La Marine qui, comme l'armée de terre, comme l'armée de l'air, recrute à tour de bras, hein, 4000 jeunes de 16 à 30 ans chaque année. Il y a toujours des besoins.
Hein. Tout à fait. Effectivement, on a un besoin. 4000 jeunes, c'est un volume assez important. Ce besoin, il est lié au renouvellement de nos effectifs parce que marin, c'est plutôt un métier de jeunes. On a des missions que l'on mène au quotidien qui nécessite véritablement d'être en pleine forme. Et puis, il est lié aussi à la remontée en puissance de la Marine nationale. On a de nouveaux équipements qui arrivent dans les années à venir. On commence à recruter les effectifs pour le prochain porte-avions, le porte-avions de nouvelle génération qui arrivera en 2038. Mais dès à présent, il faut commencer à recruter puis à former tous les marins qui armeront ce nouvel équipement.
Recruter plus aussi au regard du contexte international où on voit qu'on met plus de moyens aussi dans la défense.
Oui, tout à fait. C'est ce contexte géopolitique dans lequel on est amené à recruter des jeunes qui ont des profils assez variés. C'est-à-dire que aujourd'hui, on recrute des jeunes qui ont bien souvent une première expérience dans le civil. Ils arrivent parfois avec une certaine maturité. 50% des jeunes qu'on a recrutés en 2023 avaient une première expérience dans le civil. Ça veut dire que c'est pas un choix qu'ils font forcément tout jeune, mais qui est un choix mûri. Et il nécessite d'être mûri ce choix, puisque chez nous, on va leur demander quand même un véritable engagement.
Oui. Qu'est-ce qui les pousse généralement d'ailleurs à faire le choix de passer dans l'armée ?
Alors c'est clairement une quête de sens. On en parle beaucoup, mais chez nous, véritablement, il y a une quête de sens. L'ensemble des métiers que l'on propose, ce sont des métiers que l'on peut trouver dans le secteur civil, hein, des métiers de la mécanique, de l'aéronautique, de la maintenance.
Ça veut dire qu'on perd le sens dans le civil ?
Alors c'est pas qu'on perd le sens, mais c'est-à-dire que quand on vient dans la marine, on sait vraiment pourquoi on fait ce métier, dans quel cadre on l'exerce. Mmh. Accessoirement, on l'exerce aussi dans un environnement qui est plutôt hors du commun. Mmh. Être mécanicien sur le porte-avions Charles de Gaulle, sur une frégate de premier rang ou sur un sous-marin, c'est un environnement qui est tout à fait original, tout à fait singulier.
Parce qu'il y a de la place pour tout le monde, je ne sais pas, mais beaucoup de monde, hein, 80 métiers différents dans l'aéronautique, l'énergie, l'informatique, la restauration, vous le disiez, on ne le sait pas forcément quand on ne connaît pas le milieu.
Exactement, ça fait de nous un employeur assez singulier, puisqu'on recrute des jeunes à la fois dans les métiers de la restauration pour assurer les repas à bord, mais aussi des gens dans le domaine du nucléaire, parce qu'on exploite 12 réacteurs nucléaires pour propulser nos sous-marins et puis notre porte-avions. Donc c'est un panel de métiers assez large, des métiers parfois inattendus. On a aussi des guetteurs sémaphoristes que l'on recrute. Alors ça, c'est des métiers qu'on va moins retrouver dans le civil et qui
là, pour le former, j'imagine.
Alors on forme, ouais, pour tout le monde, on forme. Et ça, c'est vraiment un élément clé aussi, c'est qu'il n'y a pas de déterminisme académique. On recrute beaucoup de jeunes qui parfois ont fait des formations au-delà du bac, dans le supérieur, et puis se retrouvent pas dans la spécialité dans laquelle ils ont été formés et vont avoir un nouveau départ chez nous. J'ai l'exemple l'an dernier, dans mon secteur, on a recruté une jeune qui avait un BTS esthéticienne. Donc, je ne recrute pas d'esthéticienne. Enfin, en tout cas, j'ai pas de poste dans cette filière. Et en fait, elle a trouvé sa voie chez nous. Et aujourd'hui, elle a terminé sa formation. Elle fait de la guerre électronique sur une frégate. Ah oui. Donc, pour dire que...
Chose,
voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi parfois un peu méconnu. Mmh. On fait ce travail d'aller à la rencontre des jeunes pour leur expliquer tout ce que l'on leur propose.
Vous parlez de cette recrue, donc une femme. Il y a 20% de femmes aujourd'hui dans la Marine nationale. C'est peu, mais est-ce que c'est un plafond? Est-ce que
C'est difficile d'aller au-delà.
Alors, les 20%, c'est une cible que l'on s'est fixée. On est aujourd'hui à peu près autour de 16%.
Ah oui, on n'est pas encore à 20%.
20%, c'est le nombre de jeunes femmes que l'on recrute. Mmh. Globalement, l'an dernier, c'était cette moyenne-là. On voit une tendance qui évolue depuis le début de l'année. Par exemple, sur le recrutement officier, donc les futurs cadres dirigeants, c'est 30% de femmes qui ont été recrutées là depuis le début de l'année. Et c'est la même chose sur les mousses, donc les jeunes que l'on recrute à partir de 16 ans. Au moment où je vous parle, on est à peu près à 30% aussi du volume de recrutement qui sont des femmes.
Et pourquoi c'est important pour la marine de recruter davantage de profils féminins?
En premier lieu, on ne va pas se priver de 50% de la population des 16-30 ans en France. Aujourd'hui, l'ensemble de nos métiers sont ouverts aux hommes et aux femmes, y compris les forces sous-marines. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Nos équipages sont vraiment à l'image de la France, donc on va chercher des profils vraiment partout. Mmh. On travaille aussi notamment pour aller dans certains quartiers où les jeunes ne connaissent vraiment pas forcément les armées et particulièrement la marine. Et là, on travaille notamment avec des associations pour leur présenter ce qu'on peut leur proposer.
Vous lancez une campagne justement pour attirer encore plus, donner envie, susciter des vocations. Qu'est-ce que vous dites en particulier? C'est qu'il y a des perspectives d'évolution importantes quand on entre chez vous dans la marine nationale. On peut changer de poste tous les 2-3 ans en gros, donc on peut évoluer.
Clairement, c'est vraiment dans notre ADN, c'est-à-dire que quand on rentre matelot dans la marine nationale, on ne pourra pas rester matelot pendant toute sa carrière. Forcément, on évoluera. On a des contrats plus ou moins longs. On peut rentrer comme matelot pour 4 ans, rentrer plutôt à l'école de maistrance, donc comme technicien, comme chef d'équipe pour un contrat un peu plus long. Mais dans tous les cas, on va changer d'affectation régulièrement, tous les 2-3 ans. On va aussi pouvoir changer de domaine, rentrer comme électricien, puis aller faire de la plongée, et puis ensuite travailler en état-major. Et ça, c'est vraiment dans notre ADN aussi. Donc, ce qui nous permet de proposer vraiment des parcours de carrière qui sont assez nombreux, assez variés. En fait, vous rencontrerez jamais deux marins qui ont vraiment un parcours similaire.
Ouais. Ouais. On parlait des civils qui rentrent dans l'armée. Est-ce que ceux qui veulent sortir de l'armée aussi, vous les accompagner dans leur reconversion?
Évidemment, on les accompagne aussi. Chez nous, ils restent à peu près, la moyenne c'est environ 13 ans dans la marine, ce qui fait qu'ils ont acquis chez nous une expérience professionnelle dans un environnement très singulier, et puis ils ont acquis des compétences qui sont reconnues dans le civil. Vous rentrez avec un bac, vous vous formez au fur et à mesure, vous ressortez, vous avez une équivalence BTS, licence, voire master, et donc tout ça c'est reconnu dans le civil. Donc le travail que l'on va faire, c'est d'accompagner ces marins pour qu'ils trouvent leur place ensuite.
13 ans en moyenne dans la marine nationale, c'est suffisant? Enfin, j'imagine qu'on sait jamais assez, on veut garder quand même les profils qu'on a. On a dépensé beaucoup d'argent pour les former, on a beaucoup investi et misé sur eux, donc comment on fait pour essayer qu'ils restent plus longtemps?
Et pour les garder plus longtemps, il y a un vrai travail qui est fait sur l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à l'écoute et puis on essaie de s'adapter aux évolutions sociétales. On a sur un certain nombre de nos bâtiments des doubles équipages, ce qui permet de donner de la prévisibilité. C'est-à-dire que vous savez globalement les périodes où vous serez en mer et les périodes où vous serez à quai pour vous former, pour prendre vos permissions, vos vacances. Et donc, ne serait-ce que d'avoir ces éléments-là, ça donne quand même de la perspective et c'est plus facile à vivre pour les familles.
Oui, parce que c'est une demande aussi dans le civil, mais dans l'armée, de pouvoir avoir plus de temps aussi pour soi.
C'est effectivement,
il faut s'adapter.
Personne ne naît marin, donc on doit rester aussi en phase avec les évolutions de notre société.
Commandant François Séché, comme tous les DRH qui viennent dans cette émission, vous prêtez au jeu de la boîte à questions. C'est Théo qui vous l'amène tout de suite. Je vous invite à piocher un ou deux papiers, on verra, en fonction de ce que vous tirez. Une phrase à compléter pour savoir un petit peu mieux, quel est l'esprit dans la marine?
Très bien. Alors, dans ma boîte, j'aime m'occuper... Alors, dans ma boîte, c'est plutôt dans mon institution, j'aime m'occuper des marins que j'ai sous mes ordres. Moi, j'ai une quarantaine de marins dans les différents centres de recrutement. Et dans la marine, globalement, dans les armées, on est très attentif à suivre l'évolution de nos marins, faire en sorte qu'ils acquièrent des nouvelles compétences, qu'ils soient bien dans des cursus où ils vont évoluer, être attentionné aussi à leur situation familiale pour faire en sorte que chacun soit bien dans son élément et qu'au moment où on mène des opérations, il n'y a aucun doute sur le bon déroulé de ces opérations.
Il nous reste 10 secondes, je vous laisse en piocher un dernier.
Très bien.
Laisse-nous la lire.
Dans ma boîte, les entretiens avec les salariés, c'est tous les...
Alors, ce n'est pas des salariés.
Des salariés, ce sont vraiment des marins. On a, nous, un entretien annuel de notation là, qui se fait en ce moment. Donc là, où on note de façon très factuelle la façon dont nos marins ont ont servi pendant toute l'année. Au-delà de cet entretien annuel, évidemment, c'est au quotidien. Et moi, par exemple, pour mes centres de recrutement, je vais tous les mois leur rendre visite. Oui. Et c'est un suivi au quotidien.
Pour garder un contact aussi. Et c'est ces entretiens, cet entretien annuel qui permet de les faire évoluer.
Tout à fait. C'est un élément aussi où on échange beaucoup sur leur situation, sur leurs perspectives et leurs envies.
Merci beaucoup d'avoir joué le jeu, commandant François Séché, chef du service Île-de-France Outre-mer pour le service recrutement de la Marine nationale. Merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, on appelle notre avocat.
Et on rejoint tout de suite Thierry Meillat, avocat associé au cabinet Hogan Lovells, pour répondre à cette question. Je suis ingénieur dans un groupe automobile. Mon employeur souhaite m'envoyer en mission dans une zone de conflit. Puis-je refuser ?
Ça dépend, en fait, des fonctions du salarié, parce qu'évidemment, un employeur ne peut pas envoyer n'importe lequel de ses salariés dans une zone de conflit, ça c'est le premier point. Mais si on est en train de parler d'un ingénieur qui a l'habitude de travailler avec ce genre de pays, ça sera quand même possible, si notamment l'employeur met en place toutes les mesures de sécurité nécessaires. Alors, lorsqu'il y a véritablement un sentiment de danger, le salarié peut exercer ce qu'on appelle son droit de retrait. Pendant un droit de retrait, l'employeur est obligé de continuer à payer le salarié, même s'il ne travaille pas, le temps que le problème soit résolu, le cas échéant par le juge. Mais attention, parce que par exemple, il y a une grande compagnie aérienne dont certains pilotes avaient refusé de faire escale dans certains pays dits dangereux, et le juge a considéré que ce n'était pas justifié parce que justement la compagnie aérienne avait mis en place les mesures de sécurité dans les pays concernés qui permettaient à ces pilotes, qui sont en plus des pilotes d'aviation, de pouvoir être en sécurité pendant les escales.
Merci Thierry Meillat, avocat associé au cabinet Hogan Lovells. Écrivez-nous vous aussi pour interpeller nos avocats en droit du travail sur happyboulot@bfmbusiness.fr. On vous répond toutes les semaines sur notre émission avec nos experts.
Happy Boulot, le meeting.
Vous êtes manager, RH, patron d'entreprise, même si vous, c'est pas le cas, restez avec nous. Mais en tout cas, si vous faites partie de ces trois profils, vous avez certainement déjà été confronté à ce que notre invité appelle le salarié bête et méchant, du pervers toxique à celui qui se victimise et qui pollue le travail en équipe, des personnes délétères avec lesquelles il faut composer et qu'on préfère souvent ignorer, hein, plutôt que prendre entre quatre yeux. Bonjour Frédéric Fougerat.
Bonjour Erwan.
Vous êtes le spécialiste de la communication, dire comme pendant plus de 30 ans, aujourd'hui à la tête de l'agence Paris. Et ce portrait du salarié bête et méchant, c'est vous qui le dressez dans une tribune sur focusrh.com. Quand on la lit, en tout cas moi quand j'ai lu, je me suis dit, il y a du vécu un petit peu.
Il y a du vécu, ouais. Bah écoutez, ça fait 15 ans que je produis pour Focus RH une tribune management chaque mois qui est supposé être mon vécu, mon expérience, parce que j'ai pas de qualification RH, je suis pas RH, donc c'est toujours du vécu. Et je parle beaucoup, j'ai parlé très souvent des managers toxiques. Ils existent, ils font du mal, mais il y a aussi des collaborateurs qui sont nuisibles, qui eux-mêmes sont malveillants, ne font pas du bien aux autres équipes, sont une charge mentale ultra lourde pour les managers. Mais c'est beaucoup moins politiquement ou socialement correct d'en parler. C'est plus sensible, donc on préfère s'attaquer au patron. Mais il y a des gens bien et des gens moins bien des deux côtés. Ouais. C'est pas mal aussi parfois de se dire comment on les reconnaît, comment on les identifie, qui sont-ils et comment je m'en sors quand j'ai ça face à moi.
Avec nous aussi pour parler de ce sujet, Valérie Memounayad. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Merci d'être là. D'habitude, vous répondez aux questions de nos auditeurs à distance. C'est un plaisir de vous avoir en plateau. Je rappelle que vous êtes associée fondatrice de HMS Avocats. Vous accompagnez, vous, de nombreux patrons. Ces profils-là, décrits par Frédéric Fougerat, ceux qu'il qualifie de bêtes et méchants dans les entreprises, les salariés voilà, qui mettent une mauvaise ambiance, qui sabotent le travail de leurs collègues parfois. Ça vous parle ? C'est des profils qui vous parlent ?
Alors oui, bien sûr. Bien sûr, toutes les situations managériales, d'ambiance, de dégradation du climat de travail dans une équipe, dans une entreprise, plus elle est petite, plus la sensibilité à l'ambiance de travail est importante. Bien sûr que le droit du travail en France appréhende à peu près toutes ces situations. Voilà, alors la question est de savoir, une fois qu'on a repéré, qu'on a identifié, qu'on a constaté une dégradation du climat de travail et éventuellement l'imputabilité à une personne ou plusieurs personnes ou à un climat véhiculé par une personne, et bien dans ce cas, effectivement, le droit du travail peut l'appréhender sous divers aspects, avec divers outils.
Alors souvent, les managers et les RH, ils ferment les yeux sur ces situations sous couvert de bienveillance, hein, c'est ce que vous dites Frédéric Fougerat, pour éviter d'avoir à rentrer dans des procédures. Pourquoi ? Parce que c'est long, c'est complexe, parfois on se dit ça n'en vaut pas la peine.
Alors, c'est long, c'est complexe, ça en vaut toujours la peine, mais la question est de savoir quel est l'objectif poursuivi qui se plaint et qui est le ou la mise en cause, ou les mises en cause. Et donc, le droit du travail français, il a coincé, entre guillemets, les employeurs entre deux impératifs. Écouter la parole de la victime, écouter la parole de ceux qui se plaignent et, bien entendu, préserver les droits de la défense.
Ouais.
Le droit du travail français instaure un paradoxe entre le pouvoir et le droit. L'employeur a en théorie le pouvoir, le salarié a les droits.
Mais ça se termine où? Ça se termine au prud'homme?
Alors, ça peut se terminer au prud'homme, mais
souvent, l'employeur au prud'homme, il a peur de perdre, non?
Alors, pas forcément. Oui, l'employeur a peur de perdre, surtout si l'on vise des comportements qui ne sont pas caractéristiques d'une violence ou d'une agression qualifiable juridiquement. Toute la problématique d'ailleurs, et c'est le cas aussi pour les enquêtes, je ne sais pas si on va en parler ou pas, mais toute la problématique pour les employeurs, c'est qu'une fois qu'on a identifié des comportements, la question est de savoir est-ce qu'on peut les qualifier juridiquement, en tirer des conséquences, et donc sortir ou non un pouvoir, un outil de sanction ou d'exclusion. Or, l'employeur n'a pas 46 000 solutions pour exclure, il doit licencier.
On va prendre, vous parlez des enquêtes, on a des questions justement, je vais vous en donner une première et puis je vous ferai réagir après Frédéric Fougera. C'est Céline qui est manager et qui nous écrit « Une personne que je manage dans mon équipe m'a accusé de la harceler moralement. À sa demande, une enquête interne a été diligentée par les ressources humaines. Il en est ressorti que ces accusations sont fausses. Mais depuis, cette personne fait toujours partie de mon équipe. Quels sont mes recours ?»
Alors, c'est des situations qui sont assez complexes. Vous avez à la base une dénonciation. Comme je le disais, l'arbitrage entre la parole de la victime et la garantie des droits de la défense peut se cristalliser à travers la mise en place d'une enquête. Alors, il existe moi-même, je fais partie d'une association qu'on a fondée il y a quelques années sur les avocats enquêteurs ou experts de confiance qui peuvent mener des enquêtes externes, mais la plupart du temps, les enquêtes se font en interne.
Là, vraisemblablement, c'est ça.
Voilà. Et les enquêtes internes, elles se font par le DRH ou plus en respectant le code du travail et si l'entreprise est suffisamment importante par la saisine des instances représentatives du personnel qui viennent donc mettre en place une espèce de commission d'enquête. La forme des enquêtes est extrêmement souple et extrêmement libre. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'employeur est obligé de mettre en place une enquête. Ensuite, ce que va révéler l'enquête et ce qu'on doit en faire, c'est là toute la difficulté de l'employeur, manager, en tout cas de l'autorité au-dessus, de la personne mise en cause qu'il a été injustement. Alors, différents outils. Le premier, si les affirmations sont vraiment fausses et qu'il n'y a pas de sanction, il n'y a même pas de dénonciation calomnieuse puisque les conclusions de l'enquête ont permis d'aboutir efficacement à un dédouanement de la personne qui était accusée.
Derrière, il y a un préjudice.
Il peut y avoir un préjudice moral, évidemment. Et puis surtout, il y a un climat de travail dégradé. Parce que si la dénonciation a été faite de bonne foi, vous ne pouvez pas sanctionner la personne qui s'est plainte. Sauf s'il y avait un vrai abus au moment où elle s'est plainte et qu'elle savait que c'était faux. Et dans ce cas, vous devez restaurer un climat de travail. Et dans ce cas, on fait appel au médiateur, au coach, à d'autres outils.
Frédéric Fougera, je vous redonne la parole. Mais sur la notion de courage managérial, s'il y a aussi un courage à prendre quoi, quand on est dans les directions et quand on voit que dans les équipes, ça se passe mal, à un moment donné, c'est de là que doivent venir aussi les décisions.
Mais le courage de l'entreprise, il n'est pas à tous les étages. Je ne citerai pas Jacques Chirac, parce que sinon ça ferait appel à des parties génitales, mais le courage, il n'est pas à tous les étages. Et souvent, l'entreprise, elle s'accommode de mauvais collaborateurs, comme de mauvais dirigeants d'ailleurs, à partir du moment où la performance économique est là. Et donc, l'entreprise vraiment responsable, elle va réagir avant de se poser la question, est-ce que la performance économique est dégradée ou en jeu ? Est-ce qu'il y a aussi une dégradation de la qualité de la relation ? De l'humain dans mon entreprise, mais effectivement c'est une question de courage, d'autorité. Oui. Mais c'est comme le dit Valérie, c'est ultra complexe parce que le droit et protège le salarié et heureusement, mais quelque part c'est aussi un frein.
Mais quand une personne pourrit une ambiance d'équipe, parce que c'est ça le sujet, c'est préjudiciable pour l'entreprise aussi. C'est ça que les directions, les RH
complètement.
Doivent comprendre.
Mais c'est préjudiciable pour tout le monde. Qui a gagné que quelqu'un vienne foutre le bordel chez vous? Non, mais personne. Ouais. Personne, même pas la personne qui le fait d'ailleurs en réalité, puisque.
Et donc vous appelez à quoi vous? Parce que dans votre tribune, vous dites maintenant, faut ouvrir les yeux, faut prendre son.
La première chose, c'est qu'il faut arriver à détecter ces personnes. Ouais. Et si j'en parle, c'est parce que je suis le premier à m'être fait avoir à nombreuses reprises. C'est pas si facile de les détecter avec l'expérience. expérience, on finit par avoir quelques tips qui permettent de les détecter. Ensuite, c'est comment on les traite. Est-ce que ces personnes sont de bonne foi? Parce que c'est aussi une hypothèse qu'il ne faut pas écarter. La personne peut être de bonne foi de se croire harcelée alors qu'elle ne l'est pas. Ou est-ce qu'elle n'est pas de bonne foi? Et à ce moment-là, il faut l'intervention d'un tiers, des RH, d'un juriste. Il faut être accompagné.
Valérie Memounayat, j'ai une autre question de Louise Salarié sur le sujet des rumeurs qu'un collègue fait courir. Je vous la lis. Une personne avec qui je travaille au quotidien me reproche de vouloir lui voler son poste. À ma demande, tout a été cadré par notre supérieur après plusieurs médiations collectives. Il continue à se plaindre auprès des autres collègues sur ce sujet. Comment agir efficacement?
Alors, c'est une question qui est quand même assez précise, finalement, puisque vous avez quelqu'un qui se plaint de quelqu'un d'autre qui veut lui voler son poste. Oui. Et c'est la personne qui est accusée de vouloir voler le poste qui est toujours en fonction, alors que celui qui se plaint n'est pas puni. Et alors, comment vous dire? Je ne suis pas sûre que le droit du travail appréhende la faute, la sanction, la parole de l'un et la parole de l'autre, si l'on ne peut pas qualifier juridiquement de mensonge l'accusation qui est portée. Si la personne qui dit « cette personne veut me voler mon poste » n'a pas les données factuelles qui permettent d'établir de manière crédible qu'il y a eu effectivement intervention, manipulation, je ne sais pas, fausses données sur l'individu, tout ça va faire chou blanc. En revanche, la personnalité de celui qui se plaint, si ça n'est fondé sur rien, pose problème en termes de déviance ou de personnalité difficile à gérer. Et dans ce cas, une bonne discussion avec les RH sur son lien au travail, éventuellement l'intervention, parce que là vous dites en plus qu'il y a eu des médiations collectives, peut-être des éléments de coaching. Si on a un vrai problème avec une personnalité difficile et ingérable, puisqu'elle est malheureuse au travail, alors il faut envisager l'arbitrage des RH, l'évaluation concrète de ce qu'elle est capable de se remettre en cause ou non, cette personne-là, et d'envisager une séparation avec l'équipe.
On arrive déjà au bout. Oui, vous voulez dire?
Non, je voulais rebondir sur ce que disait Valérie. En fait, dans le genre de situation très compliquée dans la relation, Valérie l'a dit, il faut tout documenter, il faut que ce soit très factuel. Cette question de relationnel compliqué, c'est comme de la gestion de crise, finalement, de la communication de crise. Il faut retirer ses émotions, il faut rester professionnel et oublier l'affect et les émotions. On parle, on traite son sujet, mais comme si on traitait celui d'un autre, pour essayer de rester toujours, toujours, toujours professionnel et de façon documentée et factuelle.
Le mot de la fin, c'est que justement, pour qualifier juridiquement des faits, il faut quitter à un moment donné la dimension psychologique pure et rentrer dans les données factuelles qui permettent effectivement de dissocier la parole, le ressenti, la perception et la réalité des faits. Et l'employeur est confronté, comme je le disais, à ces deux obligations, la parole de la victime bien sûr, la préservation des risques psychosociaux et du bien-être dans l'entreprise, mais aussi la garantie des droits de la défense de celui qui est accusé.
Beaucoup d'énergie quand même.
Beaucoup.
C'est aussi le sujet
dans ces dossiers-là. Merci beaucoup en tout cas d'être à tous les deux d'être venus parler de ça aujourd'hui dans Happy Boulot. Valérie Memounayat, associée fondatrice de HMS Avocat, et Frédéric Fougera à la tête de l'agence Tenkan Paris. Merci d'avoir été avec nous, c'est l'heure de la carte blanche. Carte blanche avec Yannick Mercieris, directeur de Daily Swell, qui nous décrit l'entreprise idéale des jeunes.
Savez-vous à quoi ressemble l'entreprise idéale pour les jeunes?
Salut les jeunes!
Les jeunes, c'est les moins de 25 ans, donc pas moi. Et il y a 4 choses à retenir d'une grande étude menée par la Fondation Jean Jaurès. Premier truc à retenir, la moitié des jeunes veulent bosser pour une boîte française ou locale. Deuxième chose à retenir, il faut que la boîte soit engagée. Préservation de l'environnement, lutte contre les inégalités hommes-femmes et lutte contre le racisme et les discriminations. Bon, ils veulent aussi être bien payés et avoir du temps libre, mais ça, c'est pas une question d'argent, même moi je le veux. Troisième chose à retenir, sur la façon de bosser. Plus de la moitié veulent du télétravail, ok, mais pas 100% de télétravail. Et là où c'est plus surprenant, c'est que 30% sont prêts à rester toute leur vie dans la même boîte, mais en faisant un job différent.
Love is stay.
Et enfin, dernière chose à retenir, la plus grande partie des jeunes pensent qu'on bossera plus dans le futur que maintenant. En attendant, moi j'y retourne.
Happy Boulot, le lab.
Avec Jeanne, que l'on retrouve, et aujourd'hui une solution pour faire en sorte que les mutations professionnelles, Jeanne, se passent mieux.
Oui, aujourd'hui on reçoit Élise Denet-Boisis. Bonjour Élise.
Bienvenue. Bonjour Jeanne, bonjour Erwan.
Vous êtes directrice générale de France Armor, une entreprise qui gère chaque année des milliers de déménagements pour des personnes en situation de mobilité professionnelle, Élise.
Exactement. France Armor est un réseau de déménageurs indépendants. Nous avons une 60aine d'agences partout en France et nous répondons à la mobilité de nos clients, qu'elles soient sur le territoire de la métropole, de l'outre-mer et même à l'international. Notre chiffre d'affaires est composé à 90% d'une mobilité de collaborateurs et à 10% de particuliers comme vous et moi.
Alors qu'est-ce que vous proposez exactement? C'est quoi les services? Parce qu'un déménagement, ça comprend énormément de choses au final.
Tout à fait. Nous, le déménagement est un point d'entrée, donc le déménagement voilà, d'un point A à un point B avec vos effets personnels est bien évidemment de l'ordre de nos compétences. Nous avons aussi du garde-meuble, du self-stockage, de la reprise de mobilier également quand il s'agit du déménagement de nos entreprises, de nos ETI. Et le sujet également est bien intéressant quand il s'agit d'une activité de relocation.
Ah oui.
La relocation, c'est l'accompagnement du collaborateur dans la recherche de logement pour le collaborateur, dans l'inscription des enfants à l'école, dans tout l'accompagnement qui va être
c'est tout ce qu'il y a autour, en fait, hein, au-delà de l'entreprise même.
Vos
clients, ce sont les entreprises.
Nos clients, ce sont les entreprises. Notre job est de répondre à des appels d'offres.
Ouais, ce sont eux qui font appel à vous.
Tout à fait.
Ouais. Parce que c'est concurrentiel comme secteur. Qu'est-ce que vous apportez de plus que la concurrence ?
Ce qu'on apporte de plus, déjà, c'est l'agilité de notre réseau. C'est un réseau qui, encore une fois, a 60 agences, donc qui est petit et donc familial. Lorsqu'une décision doit être prise pour répondre aux besoins de nos clients, nous savons très vite appuyer sur le bouton et nous sommes effectivement hyper dynamiques sur ce sujet. Ce qui va intéresser vraiment nos clients, ça va être la reprise de leur mobilier pour se décharger d'une charge mentale qui est importante lors d'un déménagement. Il faut savoir que le déménagement, c'est la troisième source de stress des Français.
Et oui, ça ne m'étonne pas.
Et lorsque...
C'est pour ça que moi, ça fait 12 ans que je n'ai pas bougé de chez moi. Vous intégrez aussi l'entourage du salarié, c'est ça qui est important, parce que souvent, c'est aussi un stress pour la famille, surtout quand c'est le mari ou la femme qui suit son conjoint, sa conjointe, et qui se dit, comment on va faire ? Il faut trouver un nouveau travail, il faut remettre les enfants à l'école. Tout ça, vous en occupez quasiment ?
Exactement, on s'en occupe grâce à deux partenaires qui sont à nos côtés, qui sont Carrière Nomade et Mobility Outre-mer pour la partie... Outre-mer, et qui nous accompagne sur cette activité de relocation dont je vous parlais.
Merci beaucoup, Élise Denet-Boisy, directrice générale de France Armor, d'être venue nous présenter tout ça. Merci Jeanne Spicarolène, qu'on va retrouver, alors pas la semaine prochaine.
Non.
Je ne serai pas là.
Non, je ne serai pas là.
Mais on vous retrouve bientôt.
Dans deux semaines.
Vous arrêtez un petit peu, mais on vous retrouve bientôt. Et on vous retrouve aussi, vous qui nous écoutez, qui nous suivez. Merci de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver cette émission en replay, en podcast sur vos plateformes préférées. Bien sûr, abonnez-vous pour recevoir les nouveaux épisodes. Merci à Flo et Alban qui étaient en régie aux manettes. On se retrouve le week-end prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, comme d'habitude, bien sûr, on vous souhaite d'être heureux au boulot.
Happy Boulot, l'émission qui vous sort de votre boîte.